Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Un observatoire pour lutter contre les discriminations, c'est en Seine-Saint-Denis, une initiative du département. Notre invitée sera Oriane Filliol, conseillère départementale déléguée à la lutte contre les discriminations. C'était ce matin devant le palais de justice de la capitale libanaise, un sit-in pour appeler la Cour de cassation à rejeter les recours entravant l'enquête liée aux explosions du 4 août 2020 au port de Beyrouth. La multiplication des tentatives de traversée de la Manche par des candidats à l'exil. Sur cette situation, l'ex-directeur de l'Humanité et ex-député européen Patrick Le Yarrick estime que l'Union européenne ne peut pas fermer les yeux, vous l'entendrez. L'invité de Pluriel hier soir était Aurélie Taquilin, conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France. Elle a notamment évoqué les mesures du gouvernement en faveur de la jeunesse, extrait dans votre journal. Les qualifications de la Coupe du Monde 2022 de football, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun se sont qualifiés hier pour les barrages de la zone Afrique. 6 habitants sur 10 se déclarent victimes de discrimination en Seine-Saint-Denis. En cause, la couleur de peau, la religion, le lieu d'habitation ou encore l'orientation sexuelle. C'est pourquoi le conseil départemental a créé un observatoire des discriminations et de l'égalité. Entretien avec Oriane Filliol, conseillère départementale déléguée à la lutte contre les discriminations.
Le département de la Seine-Saint-Denis vient de créer le premier observatoire contre les discriminations et pour l'égalité. Et il remplit différentes missions. Déjà, on a un besoin de mieux recueillir les faits, de mieux les analyser, de mieux objectiver les faits de discrimination sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc, par exemple, on fait une enquête à risque de manière à avoir des éléments chiffrés pour mieux connaître la discrimination. On va également lancer des campagnes de testing sur l'emploi ou le logement, par exemple. L'Observatoire aura aussi pour objet de sensibiliser les habitants sur le sentiment de discrimination de manière à les accompagner lorsqu'ils sont témoins de discrimination, lorsqu'ils veulent également agir contre les discriminations, puisque c'est aussi ce qui ressort parmi les chiffres et que beaucoup d'habitants se disent sensibles à cette question et souhaiteraient mieux agir. Donc on veut sensibiliser davantage la population par le biais d'une caravane des discriminations qui va circuler sur la Seine-Saint-Denis pour aller à la rencontre des habitants, les aider à avoir connaissance de leurs droits et des leviers qui existent pour se défendre. Et on aura aussi vocation à agir de manière à diminuer les discriminations par le biais d'un programme d'éducation des collégiens à la lutte contre les discriminations dans le cadre d'un projet qu'on appellera « Jeunes contre le racisme et l'antisémitisme » pour mener des projets pédagogiques auprès des plus jeunes de manière à ce qu'eux-mêmes sachent repérer lorsqu'ils sont discriminés et comment est-ce qu'ils peuvent se défendre, mais aussi de manière à ce qu'ils apprennent à ne pas être discriminants, puisque dans le comportement quotidien, bien souvent, même sans le savoir, parfois on véhicule les discriminations également.
Et il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui chez les plus jeunes. Justement, plus de 90% des 15-25 ans disent avoir été témoins de discrimination en Seine-Saint-Denis.
Oui, ce chiffre est assez alarmant. On est à 77% de témoins dans la population globale des plus de 18 ans et ça montre à 95% chez les jeunes qui se disent très fréquemment témoins de discrimination et qui se disent aussi volontaires justement pour agir contre ces discriminations. C'est pour ça qu'on sait qu'on a une population qui a envie d'améliorer les choses et sur laquelle on peut compter pour que les générations à venir soient meilleures que les précédentes, dans le sens où qu'elles aient un comportement qui évite les discriminations et donc les inégalités souvent que ça véhicule.
Ces discriminations dont la cause est variable, hein, il peut s'agir de la religion, du quartier, de la couleur de peau ou encore de l'orientation sexuelle par exemple.
Tout à fait. Et on a aussi une réalité en Seine-Saint-Denis qui est un cumul de discriminations. C'est-à-dire que bien souvent, les habitants de Seine-Saint-Denis sont par exemple discriminés en raison de leur couleur de peau et ou de leur religion, mais aussi en raison du fait qu'ils vivent en Seine-Saint-Denis. On a une discrimination à l'adresse qui est très importante sur ce territoire, et on a 35% par exemple des habitants qui se disent discriminés par le simple fait qu'ils habitent en Seine-Saint-Denis. Donc sans même parler déjà du cumul de discrimination, le fait de vivre en Seine-Saint-Denis est très souvent un critère discriminant. Et lorsqu'on rajoute les autres types de discrimination, entre guillemets, c'est terrible de dire ce mot, mais qui sont habituels, on observe du coup des situations qui sont très difficiles pour l'accès au logement, pour l'accès à un emploi ou même parfois dans les relations au travail.
Alors là, les politiques, mais aussi les médias ont peut-être un rôle important à jouer sur cette question, cette discrimination liée au fait d'habiter en Seine-Saint-Denis.
C'est ce qu'on croit en tout cas. Les politiques effectivement ont un rôle et là, à l'approche de la campagne pour les élections présidentielles, on profite aussi de ce moment pour interpeller les candidats, pour leur dire en fait, en Seine-Saint-Denis, on est un territoire riche de talents, de potentiel. On mérite d'être traité autrement et notamment d'avoir des déplacements, par exemple, des candidats à la présidentielle sur tout un tas de sujets, pas seulement de la Seine-Saint-Denis prise, pour exemple, sur des sujets liés, par exemple, aux violences, etc. Mais bien que ce soit un territoire qui soit traité comme les autres, c'est ce que l'on souhaite. Et effectivement, les médias ont bien souvent un rôle aussi, puisque c'est idiot, mais rien que les images qui sont utilisées, par exemple, parfois pour illustrer des reportages, les raisons pour lesquelles on se déplace en Seine-Saint-Denis sont très souvent sur des thématiques bien ciblées qui accentuent encore plus les discriminations, puisque les personnes qui voient ces images, qui ne connaissent pas notre territoire notamment, sont forcément orientées par ces reportages. Et on a besoin de montrer tout ce qu'on sait faire. Là, je vous ai parlé de cet observatoire, on vous dit on va lutter contre les discriminations, etc. Mais on a aussi un enjeu de montrer tout le potentiel que l'on a, tous les talents que l'on a et tous les ressources, en quelque sorte, de manière à contrer les discriminations qui existent. Et je pense que, notamment, là, le travail que font les médias, par exemple, en relayant l'existence de cet observatoire, ça va y participer également, puisque ça fait prendre conscience aussi aux gens que, ah bah oui, c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, les habitants partent déjà avec moins de chances que les autres, parce qu'ils ont un cumul de discriminations qui n'existent pas forcément ailleurs.
Vous souhaiteriez qu'il existe un observatoire national. Là, il s'agit d'un observatoire départemental en Seine-Saint-Denis. On se souvient que l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, avait plaidé pour la création d'un observatoire national sur les discriminations.
Tout à fait, qui avait été abandonné, alors que nous, on pense que ce serait indispensable, cet observatoire national. Là, on le crée à l'échelle de la Seine-Saint-Denis. Je pense qu'il est créé ici, avant, sur d'autres territoires, parce que on a une situation très particulière sur le sujet, mais en réalité, c'est au niveau national que ce sujet devrait être pris en compte, parce qu'on a une réalité d'état des discriminations sur tout le territoire, en fonction de la couleur de peau, de l'origine réelle ou supposée, de l'orientation sexuelle, mais aussi, par exemple, du corps, notamment la grossophobie, par exemple, qui est un fléau qui existe également sur l'accès à l'emploi, par exemple. Et on a besoin que ce sujet soit pris en compte à l'échelle nationale de manière à ce que l'on réduise réellement les discriminations. Nous, là, à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, on va se battre avec nos petits bras, en quelque sorte, pour faire reconnaître le fait que les discriminations sont particulièrement prégnantes ici. Mais c'est aussi les autres territoires que l'on a besoin de convaincre, puisque les habitants de Seine-Saint-Denis, ce n'est pas forcément entre eux qu'ils se discriminent. C'est aussi les autres territoires par rapport à nous. Et donc, si ce sujet était pris en main à l'échelle nationale, ça nous permettrait d'avoir de vrais projets d'accompagnement déjà des personnes qui sont discriminées, d'avoir des leviers qui soient mieux utilisés et de pouvoir sensibiliser plus largement. Par exemple, le projet dont je vous parlais du programme d'éducation des collégiens à la lutte contre les discriminations, on pense que ça ne devrait pas être une initiative en Seine-Saint-Denis, mais que ça devrait être quelque chose qui soit intégré au projet éducatif dans tous les collèges, de manière à ce que tous les jeunes soient sensibilisés. Alors là, on aime à penser que nos jeunes de Seine-Saint-Denis seront mieux formés, mieux outillés que les autres grâce à ce que l'on va mener, mais pour que ça fonctionne, pour que les discriminations diminuent vraiment sur notre territoire et sur le territoire français en entier, on aurait besoin qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle nationale. Et là aussi, d'ailleurs, on interpelle de nouveau les candidats à la présidentielle pour qu'ils se saisissent du sujet.
Oriane Filhol, conseillère départementale en Seine-Saint-Denis, déléguée à la lutte contre les discriminations, maire adjointe de Saint-Denis en charge des solidarités, de la prévention spécialisée et des droits des femmes. Un rassemblement s'est tenu ce matin devant le palais de justice de Beyrouth. Une dizaine de militantes de l'association Noun ont tenu un sit-in pour appeler la Cour de cassation à ne pas donner suite au recours présenté par certains responsables poursuivis suite aux explosions meurtrières au port de Beyrouth le 4 août 2020. Ces personnes demandent à la Cour de refuser les actions à responsabilité de l'État présentées à l'encontre de plusieurs juges et conseillers judiciaires. 10 cadavres d'exilés ont été découverts à bord d'un bateau surchargé au large des côtes libyennes. Ces personnes seraient mortes étouffées. Une annonce de Médecins sans frontières. Le navire de Médecins sans frontières a secouru 99 survivants. Les tentatives de traversée de la Manche par des candidats à l'exil sur des bateaux se sont multipliées ces dernières semaines au large du Nord et du Pas-de-Calais. Sur la situation à Calais et les drames lors des tentatives de traversée de la Manche pour rejoindre l'Angleterre, l'ex-directeur de l'Humanité, ancien député européen Patrick Le Yarrick, estime que l'Union européenne ne peut pas fermer les yeux.
Elle ne peut pas fermer les yeux. Les gens qui se trouvent à Calais sont des gens qui fuient des guerres, qui fuient des menaces à leur encontre, qui fuient la misère, mais surtout les guerres pour ceux qui sont à Calais. Donc ils ne peuvent pas être pris dans un étau entre la France et le Royaume-Uni qui n'en veut pas. Donc il faut, oui, une action européenne qui vise à leur offrir aujourd'hui la possibilité d'être hébergés convenablement, de choisir le pays où ils veulent aller. Désormais, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne telle que nous la connaissons, mais les autorités européennes devraient s'occuper sérieusement de cette affaire, et on ne peut pas d'un côté déchirer leurs tentes, les chasser comme on le fait en ce moment, les laisser prendre la mer avec le risque de mourir. Donc aujourd'hui, il faut une politique commune de l'asile et donner la possibilité à chacune et chacun qui se trouve là d'aller dans le pays de leur choix. Ceux qui veulent aller au Royaume-Uni, souvent, ils rejoignent leur famille. Donc le minimum d'humanité devrait consister à leur permettre de le faire.
Et comment avez-vous accueilli les propositions du médiateur du gouvernement, ces propositions qui ont été rejetées par la mairie de Calais?
Là aussi, la collectivité locale refuse. On comprend du point de vue des populations, du point de vue des difficultés auxquelles ils sont confrontés les uns et les autres. Ceci dit, on ne peut pas rester dans une situation comme celle-là, et il faut bien petit à petit trouver un débouché qui soit favorable à des êtres humains qui n'ont pas demandé le sort qui leur est fait aujourd'hui. Donc la mairie et puis les collectivités territoriales sont aussi trop fermées, comme le sont d'ailleurs d'autres autorités.
Et c'est le regard porté sur ces personnes qu'il faut aussi changer.
Oui, parce que vous voyez bien l'ambiance qu'il y a depuis quelques semaines dans notre pays. Tous ces gens qui sont contraints de partir, qui sont en difficulté, qui sont dans la souffrance, sont qualifiés de tous les noms. Derrière le vocable immigration, on mélange l'immigration avec les enjeux d'insécurité et de terrorisme, ce qui est totalement abject. Il y a dans ceux qui sont à Calais et qui vivent dans la boue aujourd'hui, des ingénieurs, des gens qui ont d'autres qui sont médecins, qui ont une formation dans leur pays, l'Afghanistan et d'autres. Et nous, on rejette ces gens-là, on se prive de l'intelligence humaine. Il y a quelque chose qui ne va pas, et donc il y a sûrement de la part des associations, des forces démocratiques, des forces qui défendent l'humanité en quelque sorte, des efforts à faire pour contrebalancer la propagande aujourd'hui qui vise à rejeter des hommes en dehors de la communauté des hommes, ce qui n'est pas acceptable dans ce siècle.
L'ex-directeur de l'Humanité, ancien député européen Patrick Le Yarrick. Des pluies diluviennes inédites se sont produites dans le sud de l'Égypte et leurs conséquences ont provoqué la mort de 4 personnes, des personnes dont les habitations se sont écroulées sous la pluie et les grêlons. Au total, 106 maisons ont été emportées et plus de 300 partiellement endommagées. C'est arrivé dans la province d'Assouan, à 650 km au sud du Caire. L'invité de Pluriel hier soir était Aurélie Taquilin, conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France, conseillère municipale à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment évoqué les mesures du gouvernement en faveur de la jeunesse extrême.
Moi, ce que j'ai vu pendant cette crise et pendant cette pandémie, c'est finalement cette jeunesse hein, qui a été quand même une génération à qui on a demandé beaucoup de sacrifices, hein, une jeunesse un peu sacrifiée, plus de sorties, plus de vie sociale, plus de cours en présentiel, ça a été très dur pour eux. Et moi, je crois beaucoup à la sortie de crise par la jeunesse. Je crois que ce sont des acteurs de la reprise économique. Il faut que nous ne laissions aucun jeune sur le bord de la route. Donc, il faut savoir qu'au niveau du gouvernement et l'impulsion qui a été donnée, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Il y a le plan « Un jeune, une solution ». Et ça a permis à quand même 3 millions de jeunes qui ont trouvé un emploi. Moi, je le vois à l'échelle de ma commune. Il y a des entreprises qui ont pu poster leur annonce sur ce site. Donc, vraiment de la mise en relation qui a bien fonctionné. Il y a aussi un nombre record d'apprentis. Il y a à peu près effectivement 600 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés, notamment en 2020. Ça fonctionne bien. Je le vois à la région Île-de-France sur l'apprentissage. Et puis, ce nouveau dispositif hein, qui a été annoncé, le contrat engagement jeune. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas un revenu, hein, c'est un contrat. C'est un contrat donnant-donnant avec l'État. Le jeune, bah, il a des droits et des devoirs. Il s'engage dans un programme d'accompagnement de 15 à 20 heures par semaine. C'est effectivement une solution pour tous les jeunes qui ont moins de 26 ans et qui sont éloignés de l'emploi et de la formation. Et donc, c'est aussi une aide pour les amener vers le chemin de l'emploi. Moi, je vois sur mon terrain et dans ma commune beaucoup de secteurs comme, par exemple, l'hôtellerie, la restauration qui manquent de bras. Former nos jeunes, c'est aussi les accompagner vers le chemin de l'emploi.
Aurélie Taquilin, conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France, conseillère municipale à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Elle était l'invitée de Pluriel hier soir, une émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. Les qualifications de la Coupe du Monde 2022 de football, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun ont pris hier les derniers billets pour les barrages de la zone Afrique. La Tunisie s'est imposée face à la Zambie, 3-1, et prend ainsi la première place du groupe B. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a validé sa qualification en faisant match nul de partout contre le Burkina Faso. Ces pays rejoignent le Maroc, le Mali, l'Égypte, le Sénégal, le Ghana et la République démocratique du Congo qui participeront aux 5 barrages en match aller-retour. Le tirage au sort aura lieu le 18 décembre prochain à Doha. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera l'Andrian Gang, co-référent du livret Quartier populaire pour la France insoumise, émission préparée et présentée par Loïc Barrière. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est midi 17.